Très bonjour. Un décor bien particulier est apparu devant le tribunal ce matin. Dis-moi, les chaises longues, le palmier, tout ça, ça te pense à quoi? Je sais pas, la plage. Oui, exactement.
Merci, du coup, on va voir un texte sur le sable. Petit point tout particulier sur le sable, ressource très prisée et contre toute attente limitée. Puisque vous pouvez désormais la plage même devant le tribunal, devant cette institution, maintenant l'ordre en place est rendu par la même occasion inéluctable, la catastrophe climatique et écologique. Arrêtons-nous 2 minutes sur cette ressource nécessaire à la production de béton. Ressources si chères aux géants du ciment que l'on jugeait ici même pour ses nombreux crimes la semaine passée dans une pièce de théâtre à la sauce zadiste, elles sont. Comme même d'autres sources dont le règne de la croissance infinie dans un monde fini, le sable tend à se faire part. Car lui aussi est miné par la raison générale exercée par le modèle économique productiviste. Le sable est, après l'eau, la ressource la plus utilisée mondialement. Le PNUE, Programme des Nations Unies pour l'Environnement, est précise. Le sable et le gravier représentent le plus grand volume de matières premières utilisées sur Terre à Pôle. Mais ajoute également le fait alarmant que leur utilisation dépasse largement leur taux de renouvellement naturel. Du sable, il en faut 700 grammes pour une bouteille en verre, 200 tonnes pour une maison, 30 000 tonnes par kilomètre autoroute, 12 millions de tonnes pour une centrale nucléaire. Le sable est le petit minerai sur lequel repose la grandeur du monde moderne. 40 à 50 milliards de tonnes sont extraites chaque année pour la voirie, l'électronique, l'énergie, mais surtout la construction. À elle seule, elle emprisonne plus de la moitié des graines coltées en béton, ciment ou autre mortier. Un moyen utilisé pour calculer l'utilisation mondiale du sable est d'analyser la production du ciment pour le béton. Pour chaque tonne de ciment, le domaine de la construction a besoin de 6 à 7 tonnes de sable et de gravier. Grâce à cette analyse, on estime l'utilisation mondiale d'agrégats de la construction en 25,9 et 29,6 milliards de tonnes. Volume de béton suffisant pour construire un mur de 27 mètres de haut par 27 mètres de large le long de l'équateur, environ 40 000 km. Dites bonjour à la démesure.
En ce qui concerne la Suisse, une série d'articles de Claude Beichtold, sortis sur ID.News l'année dernière, nous montre l'enjeu qu'est la quête du monopole sur ce matériau, même chez nous. Car le titan Holcim a un appétit gargantuesque de matériaux. D'abord, il lui faut le calcaire du Morvan, qui, broyé et cuit à 1450 degrés, donnera le ciment. C'est déjà un trou considérable dans le paysage avec les ponts. Or, dans la formule du béton, il n'y a que 12% de ciment. Le reste, c'est du gravier et du sable. Ainsi, pour chaque kilo de ciment du Morvan avalé, il y aura 7 de sable englouti. La consommation de sable est telle que les gravières actuellement en activité dans le canton de Vaud sont au bout de course. En 2001, Holcim prend donc ses précautions et signe un droit d'exploitation avec les propriétaires du plus gros gisement de sable du canton, le bois de Ballon, à 20 km des Clépons, le long du pied du Jura. Il prévoit d'y ouvrir sa méga gravière qui, selon les termes tirés du dossier juridique, devrait assurer la demande du canton pour les 30 prochaines années. C'était sans compter sur Orlati, autre gros du milieu de la construction qui ne vaut mieux que Holcim et qui tente, dans une guerre de géants, de s'accaparer lui aussi ce gisement si précieux. La progression mondiale du recours au béton armé dans la construction a permis de marchandiser le domaine de la construction au point où les villes deviennent de simples outils d'accumulation du capital. L'environnement bâti et les infrastructures, des moyens de placer du capital financier, des débouchés pour investir le capital et maximiser les profits. Dans cette course au profit sans limite, le béton fut l'arme parfaite, facile à mettre en œuvre et peu coûteux. C'est le matériau idéal pour imposer la mondialisation capitaliste. C'est bien connu. Quand le béton va, tout va. Et puisque le bâtiment va, tout va. Et puisque faire tourner les bétonnières, ça crée de la croissance, et que faire de la croissance fait tourner les bétonnières, pourquoi se priver? Les géants du béton, comme les grands investisseurs et autres fonds de placement, s'en mettent plein les poches, tout comme les mafias du sable par ailleurs. La consommation de sable et d'agrégats s'élève à 4 à 8 tonnes par an et par habitant dans nos vieilles économies. Elle double dans les pays en forte croissance. Pour satisfaire les besoins du domaine de la construction, toutes les sortes de sable ne peuvent pas être utilisées. Seuls les grains rugueux façonnés par les eaux sont propres à la construction, contrairement au sable des déserts. Arraché aux montagnes et aux lits des rivières, ce sable si précieux voyage en pente douce depuis plusieurs centaines d'années avant d'atteindre les côtes. 90% du sable de mer a pris ce chemin. Au bout de la route, il se retrouve sur les plages pour encaisser les marées et protéger les rives et se détend en profondeur pour offrir un refuge aux animaux marins. Le sable est une ressource qui, pendant longtemps, a été facilement accessible et disponible en grande quantité pour un prix faible. Cependant, les carrières accessibles sont de plus en plus rares. Alors que les lits de rivières sont vides, les fonds marins sont devenus la première source de sable. Mais ces quantités astronomiques de matériaux ne peuvent pas être extraites et utilisées sans un impact considérable sur l'environnement. Le sable, extrait des littoraux, est aspiré par d'énormes barges qui raflent tout sur leur passage, plancton, organismes marins et sable, et détruisent les habitats et écosystèmes marins. Lorsque les barges pompent le sable, des particules trop fines pour être utilisées sont rejetées, engendrant des nuages de poussière sous-marin qui modifient la turbidité de l'eau et affectent l'écosystème marin sur des zones relativement grandes. En somme, l'extraction massive de sable fragilise et déstabilise les littoraux, deltas et rivières, entraînant l'accélération de l'érosion des côtes et des plages. En ce qui concerne les rivières, l'exploitation accroît les risques d'inondation, pollue et modifie les niveaux de pH de l'eau. Pour finir, le transport et l'extraction nécessitent une fois de plus l'utilisation d'innombrables machines, camions, barges, pompes, pelleteuses, etc., qui dépendent principalement d'énergie fossile combustible, relâche de grandes quantités de CO2 à force de trop s'enfoncer, la tête dans le sable, le vivant nous file entre les doigts.
Oh, un petit texte entrecoupé d'un acquittement, c'est super.
Bonjour à tous, merci de votre soutien. Je pense que ça a pesé lourd dans la décision. Aujourd'hui, il y a un acquittement qui a été prononcé contre des infractions qui étaient qualifiées d'assez graves, avec 6 mois de prison ferme qui étaient encourues, et un acquittement qui est finalement prononcé sous l'angle de simplement la logique procédurale. L'État, l'accusation, a voulu faire un procès politique. Il a voulu poursuivre le plus grand nombre de personnes le plus rapidement possible, avec le plus de sévérité possible. Il a échoué. C'est peut-être un petit peu ici aujourd'hui le sens de la justice et du combat que vous menez qui est un peu porté. Donc merci de votre présence. Elle a clairement contribué à raisonner le tribunal, à rendre cette cause politique atteignable, entenable pour tout le monde. Merci de votre présence. Je pense que mon mandant qui ne veut pas s'exposer vous remercie infiniment.
Encore la suite du texte sur le sable, mais en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on vient d'avoir là. Merci beaucoup.
Pour vous rappeler juste tout ce qui s'est passé avant, sur tout ce qu'on disait, en gros, le sable est nécessaire pour faire du béton et on l'extrait des plages et des souterrains, des profondeurs de la mer pour faire des bâtiments. Voilà, et ça détruit tous les écosystèmes. C'est vraiment une entreprise de merde. On continue la suite du sable.
Ok. Or, à ce jour, les littoraux abritent la moitié de la population mondiale et 3/4 des grandes métropoles. Léger et malléable, le sable s'est plié pendant des millénaires au rêve de grandeur des êtres humains. En brisant un cycle nécessaire aux vivants par nos désirs d'éternité froide et de croissance infinie, nous avons littéralement creusé le gouffre auquel nous faisons face. Celui d'une nature que nous vidons en croyant pouvoir nous extraire de ces rythmes nécessaires. Il serait peut-être temps d'arrêter de faire les autruches, de sortir la tête du sable et de s'attaquer frontalement aux problèmes de notre temps. Le système de production capitaliste et sa nécessité de production des profits, sa nécessité d'expansion constante est incompatible avec la possibilité d'une planète vivable dans les décennies qui viennent. Le pillage quotidien des ressources terrestres nécessaires pour la production de béton est insoutenable. Le modèle de société que celui-ci implique et permet à travers l'expansion des villes, l'artificialisation des terres et l'anéantissement du vivant ne l'est pas non plus. Le combat de la ZAD contre l'extension de la carrière d'Holcim à Éclépont ne se limite pas à une simple lutte territoriale. C'est une lutte globale contre un système écocidaire. C'est une lutte contre l'extractivisme, contre le capitalisme.
J'ai passé de la nuit sans dormir et j'écris des petits textes. Ils sont en vers, mais c'est en italien. Je ne sais pas. So, sorry. This is gonna be in Italian. It's just a little text I wrote because I spent so many nights not sleeping, thinking about this, all these things. And well, I wrote this thinking about you, thinking about them, talking with you. Okay, ça c'est la première fois que je fais ça. And this is, I don't know everybody, the ZAD is made of people. And this text is not what I think, it's just my thoughts put in text. So this is art. Don't take it personally, don't take it personally. Siamo gli ZADis nella notte, le partigiane della notte. Resistenza della notte, scalo l'albero di notte. Ouais, je grimpe sur l'arbre dans la nuit, la nuit, la nuit, la nuit. Come ti chiami? Keleton Blaze 4422 Nio Canton Vo Zad 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 Zad. Sei pazzo o sei un re? Ti chiedo se conosci l'1312. Ah, te lo devo spiegare, aspetta, fammi respirare. Signora gente, signora gente, signora gente. 47222, oh 4722, sto parlando con te. Io faccio, scusa la domanda politica. Lui fa, non mi interessa la politica. Io faccio, sto parlando con te. Oh, non ti interessa la politica? Ah, così non qua c'è non era. Mi ha detto, non mi piace la politica. La politique, se plaise me, pas. Se la gente là-bas, la dit ça. Vuoi il mio consiglio, fra? No, eccolo comunque. Qui la gente giudica, noi siamo gli imputati. Te lo devo spiegare, yes, we, yeah, sì, 1312. A 1 3 C A, l'hai capito? No? Mi ero dimenticato che un idiota in uniforme rimane comunque un idiota. Scusate, scusate. Scusate. Voi potete dire qualcosa anche voi se volete. You can say something too if you want. I'm sorry about this text. Sto parlando troppo complicato, metodo socratico? ZAD. ZAD 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 stai a terra nella notte. ZAD 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 stai a terra nella notte. ZAD 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 le botte. ZAD 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 stai a terra nella notte. Ulula 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 ulula, ultimo zadista sulla luna. Ulula 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 ulula, e se ululi diventi lupa. Ulula 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 ulula. Yeah. Il mio amico scrive, dov'è? Boh, non lo so, forse si è spostato e sbandato di lato a cercare di non passare al paradossale attivando l'attivista.
Non mi ricordo più come va avanti.
Ok. Forse si è bardato, si è scordato Virgule, vai a chiedere alla COP cosa ne è stato. Forse si è preso quella libertà di prendere ciò che non è suo, anche se tuo e mio sono delle categorie borghesi. Siamo gli zaris nella notte, le partigiane della notte, scalo l'albero di notte, i miei amici nella notte, tutte le mie amiche nella notte. Za 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 za. Ulula, 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 ulula. Ulula zadista, ulula!
Du coup, je vais parler de la violence et surtout des fausses accusations de violence. Alors déjà, une accusation de violence contre agent de police, qu'est-ce que ça donne ? Ben, ça peut donner une demande de mise en détention pour 6 mois ferme, comme ça avait été demandé contre un des prévenus qui est sorti acquitté aujourd'hui, car cette accusation était fausse. Je vais pouvoir témoigner en fait de ce que font ces fausses accusations. Et... Hein ? Ah ouais, pardon, désolé. Ah ouais, on m'entend mieux. Hein. Oh, du coup, je vais parler des fausses accusations de violence et de cette technique de répression qu'utilise la police. Voilà, on a plusieurs témoignages. Donc aujourd'hui, un prévenu a été acquitté à propos d'une fausse accusation qui lui avait été mise dessus et dont le procureur demandait 6 mois ferme pour cette personne. Je ne sais pas si cette personne veut venir d'abord témoigner de ce qu'elle a vécu. Je continue. Après, bon, alors je vais d'abord parler moi. Du coup, moi j'ai vécu une fausse accusation de violence aussi pour cette même évacuation de la ZAD de la Colline. J'avais pris un rôle qui était un rôle de ground support, où j'étais en fait assignée à protéger les personnes qui s'étaient mises dans des structures en hauteur, en empêchant les flics de couper les cordes qui maintenaient ces structures. Pour ça, il fallait juste essayer de parler avec la police qui avait été mise au courant. Béatrice Métro avait discuté avec les zadistes quelques jours auparavant, justement pour assurer la protection des personnes en hauteur à travers ce rôle et donc assurer que ces personnes ground support pourraient rester jusqu'à ce que tout le monde soit sain et sauf au sol, et avait passé ces informations à la police qui était au courant. Pour m'assurer de ça, le matin même, je suis allée parler au chef de la police devant les caméras. Bon, la plupart des médias ont un peu mal fait leur taf. J'ai eu de la peine à retrouver cette vidéo ensuite pour prouver mon innocence. Du coup, le chef de police a acquiescé devant les médias qu'effectivement, ils étaient au courant que le ground support pouvait rester jusqu'à ce que tout le monde soit sain et sauf au sol. Sauf que, à un moment, vers 4h de l'après-midi, j'ai vu que sous une barricade, sous une structure en hauteur, pardon, qui était proche d'une barricade, il y avait 5 personnes et une marée de trentaine, quarantaine de flics en dessous et 0 témoin. Donc j'ai eu peur pour ces personnes qui étaient en hauteur, je suis allée voir. Il faut savoir que cette peur, elle était justifiée et ce rôle de ground support était vraiment nécessaire parce qu'il vient à la suite d'une histoire en 2003 où des personnes étaient accrochées au pont de l'Aubonne. Et un policier a coupé la corde qui les retenait. Et il y a une des personnes qui est tombée de 30 mètres ou 20 mètres et qui a été gravement blessée. Et bon, c'est un policier qui a été acquitté par le juge Stoll. Du coup, autant dire qu'on avait un peu peur de son jugement. Quoi d'autre ? Oui, donc du coup, il fallait des personnes ground support pour empêcher les policiers de couper les cordes. Parce que soi-disant, le policier n'avait pas compris, il parlait allemand. Je pense que le langage des signes et le nom ne coupait pas la corde, ça peut se comprendre, mais enfin bref. Quoi d'autre ? Ah oui, et au moment où je suis allée à la barricade, à la structure où il y avait ces 5 personnes, juste avant, des policiers, malgré malgré les avoir prévenus à répétition, avait coupé une des cordes du Skypod qui s'était mis à pencher alors qu'il y avait des personnes dessus. Et heureusement, il n'était pas tombé. Mais voilà, c'était dans cet état d'esprit-là que j'étais quand j'ai vu ces 40 policiers sous ces 5 personnes et qui d'ailleurs faisaient des petites blagues sur jouer au jeu Jenga, je ne sais pas si vous connaissez, où on enlève petit à petit des pièces jusqu'à ce que ça s'écroule. Et sauf qu'ils se marraient en disant que bon, ça n'allait pas durer très longtemps comme jeu, ce ne serait pas très marrant parce qu'ils avaient très envie de les faire tomber. Donc voilà, pour vous dire un peu l'état psychologique et le manque de respect total pour la vie humaine de ces policiers. Et voilà, bah moi on m'a embarqué quand j'ai dit que je venais faire témoin. Et je leur ai dit, je suis le ground support, on a le droit de rester là jusqu'à ce que tout le monde soit sain et sauf au sol. Il y a encore des gens sur la maison, il y a encore des gens sur cette structure, je ne vais pas partir. Et du coup, 7 Robocop m'ont embarqué. Ils m'ont foutu au sol, ils m'ont menotté, ils m'ont fait des bleus. J'ai essayé de leur dire que leur chef était au courant vu que j'avais parlé le matin même avec lui, sauf que ben ils m'ont fait passer devant leur chef qui n'a rien dit malgré le fait que je l'ai interpellé. En gros, c'était sûrement lui qui a demandé de m'embarquer et je me suis retrouvée en garde à vue à la Blecherette. J'ai subi et surtout j'ai vu aussi les conditions horribles dans lesquelles étaient les autres personnes. Dans des cages, enfin voilà, vous avez déjà eu plusieurs témoignages là-dessus, vous en aurez peut-être d'autres. Après la première nuit en garde à vue, je suis passée devant le proc, je pense que j'étais une des premières. C'est moi, du coup, la personne qui était accusée de violence contre agent, en fait. Mais je ne le savais pas encore, je l'ai su au milieu de cette charmante discussion avec le procureur, où j'ai essayé de lui expliquer mon rôle, je ne comprenais pas du tout ce qui arrivait, en fait. Et c'est là qu'il m'a dit que j'étais accusée d'avoir lancé des pierres contre les policiers au moment de mon interpellation. Alors qu'en fait, j'étais très clairement là en tant que témoin et en tant que ground support. Donc c'était clairement une fausse accusation de violence qu'on m'avait mis dessus avec des détails complètement mensongers. Et le proc a demandé ma mise en détention pour 3 mois. Donc 3 mois en prison provisoire en attente de jugement. Et du coup, la deuxième nuit, je l'ai passée en prison. Et j'étais encore inconnue à ce moment-là. Je n'avais pas révélé mon identité. Et le jour d'après cette nuit en prison, je l'ai révélée au tribunal de mesures de contrainte pour pouvoir sortir de prison, en fait. C'était la seule manière pour contrer leur doute sur ma possible fuite. Enfin, voilà. J'ai passé 2 mois... avec un stress intense à chaque fois que je voyais des policiers, parce que je me disais que si, pour une raison ou pour une autre, ils contrôlaient mon identité, ils allaient sûrement voir dans leur fichier que j'avais cette accusation de violence contre agent. Et ce que détestent vraiment les policiers, c'est des gens violents contre les policiers. Donc, malgré que ce soit eux, en fait, qui aient le monopole de la violence. Du coup, ouais, j'ai eu beaucoup de problèmes physiques et psychologiques liés à toute cette peur et tout ce stress. Et 2 mois après, en fait, cette accusation de violence qui est donc passée devant tous les médias. Hein. Dans tous les médias, il y avait une personne qui a été arrêtée pour ça. Et du coup, ça a permis de criminaliser le mouvement de soutien à la ZAD de la Colline à travers cette fausse accusation. Et... j'en étais où ? Ah oui, du coup ça a été classé, donc en fait les policiers eux-mêmes avaient des vidéos qui prouvaient que je n'avais pas caillassé de policiers au moment de mon arrestation. Par contre, mon arrestation très musclée était clairement un abus d'autorité et de pouvoir, d'autant plus de ce qui avait été discuté le matin même avec le chef de la police devant les médias. Et du coup, en fait, le procureur ne voulait pas que mon avocat voie ces vidéos, alors qu'elles faisaient partie de mon dossier, ce qui est illégal. Et du coup, en insistant un peu, on a pu les avoir. Ensuite, il ne voulait pas qu'on les montre à des journalistes. Si quelqu'un les veut, on les a, vous pouvez venir vers moi. Et quoi d'autre ? Oui, bref, du coup, la violence a été classée. Donc, les policiers et la justice elles-mêmes ont accepté qu'en fait, c'était une fausse accusation de violence. Et qu'ils avaient clairement menti. Et du coup, en fait, ils s'en lavaient les mains. Et après 2 mois de stress psychologique et de passer par la case prison et la peur d'avoir mes autres collègues zadistes mis en danger, en fait, tout ça, les flics s'en lavaient juste les mains. Et ça m'a mise en colère, surtout l'impunité de la police et le silence qu'elle nous impose. Du coup, j'ai porté plainte contre la police fin juin. J'ai ensuite fait une conférence de presse là-dessus. Et voilà, j'ai porté plainte pour abus d'autorité. Je crois que c'est abus d'autorité ou abus de pouvoir, bref. Lésions corporelles pour les nombreux bleus que j'avais. J'ai des belles photos. Et tentative de dénonciation calomnieuse pour justement ne pas être silencié et dénoncer ces techniques de répression et de criminalisation et d'intimidation qu'utilise la police contre nos mouvements. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut témoigner. Désolée, je suis un peu stressée, c'est un peu brouillon. Je ne suis pas super préparée.
Ouais, ben, merci à tous d'être là. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire, à part que je remercie la juge de ne pas avoir validé cette politique ADN qu'on essaye de passer en force, qui vont à l'encontre du faisceau de preuve, qui est très important pour éviter les injustices. Et puis j'aimerais quand même, au niveau quand même de la brutalité policière, j'aimerais rappeler que quelques jours avant que je sois arrêté pour cette histoire, j'étais arrêté sans base légale, donc on me suivait dans le train. J'ai été arrêté sans base légale, j'ai demandé à un avocat, on m'a rigolé au nez, on m'a dit que c'était un jour férié. J'entendais le chef dire au policier qui a fini par appeler quand j'insistais, qui disait « Non, mais oui, appelle un avocat, de toute façon, c'est un jour férié, il va pas venir. » Et puis, donc, on m'a pas laissé voir d'avocat, on m'a emprisonné au poste de police, alors que normalement, ça se passe pas comme ça, on doit être dans une prison normale. Et puis, j'ai demandé la base légale, on ne me la donnait pas. Et puis, j'ai fini par mouiller ma couverture. Et sous ce prétexte-là, donc j'ai uniquement fait ça, j'ai mouillé une couverture. Les policiers sont venus, ils m'ont enchaîné à un mur, en fait, avec des menottes. Et donc, je pouvais même pas m'allonger, quoi. Je pouvais rien faire à part rester assis sur le bloc de béton. Et puis j'ai fini par donner des petits coups contre le mur. Je les ai pas laissés travailler. J'ai embêté tout le poste de police. C'était ma seule solution. Après, il y a plusieurs policiers qui venaient voir à la cellule, ils disaient vous êtes un gamin, etc. Au bout du sixième, j'ai dit, mais vous voulez que je fasse quoi d'autre? Je peux même pas m'allonger, je peux même pas dormir. Et puis là, il m'a dit, si vous arrêtez, on pourra peut-être faire quelque chose pour vous. Et puis le lendemain, ils m'ont lâché le matin, alors qu'ils disaient que c'était écrit que je devais faire un jour jusqu'à 15h et tout. Puis en fait, là, ils avaient pris des affaires personnelles à moi que j'avais pas pu mettre sous scellé. Puis quand je leur ai dit, oui, mais vous avez telle affaire, vous avez pas le droit. Puis la seule réponse qu'on me donnait, c'est « Ah, mais monsieur, on est la police !» Donc en fait, ils ont perquisitionné des affaires à moi, sans base légale, sans que je puisse les mettre sous scellé, ce qui est complètement illégal. Donc voilà, après ce qui s'est passé ensuite, c'était pas surprenant. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci.
c'est le nouveau mois. Désolée, à cause du stress, j'ai oublié des trucs. Alors,
je tiens...
Tu me dis hein, si tu veux pas que je parle. Hein. Alors du coup, j'aimerais juste rajouter que là, en ce moment, il y a eu deux personnes qui ont porté plainte contre la police. Il y a une personne qui était street medic, c'est-à-dire faisait partie du corps médical qui était là pour aider les personnes lors de l'évacuation, qui a été traitée avec énormément de violence physique par la police. Voilà, je vais pas parler des détails pour cette personne parce que j'aurais peur de me tromper, mais voilà, a vécu vraiment une situation très très violente physiquement. Et en ce moment, elle a dû passer devant le procureur par rapport à sa plainte, donc ça va bientôt être mon cas. Et je tiens à dénoncer que le procureur en question, je sais pas qui c'était, a vraiment mis une énorme pression sur cette personne pour qu'elle retire sa plainte, en lui disant évidemment que si ça ne marche pas, tous les frais de justice seront à sa charge, donc une énorme pression financière. Je rappelle qu'on est des militants ex anticapitalistes, donc on roule pas vraiment sur l'or. Et voilà, la pression financière, et en sachant l'impunité des policiers en général, ben c'est un vrai risque, parce que ça veut dire qu'on risque vraiment de se retrouver avec tous ces frais à notre charge. Donc voilà, je voulais dénoncer cette pression aussi de la part du ministère public. Et je voulais dire aussi en mot de fin sur ces questions de violence, la question de qui est vraiment violent dans cette histoire. Est-ce que vraiment la violence, c'est la nôtre, celle de la défense du vivant, ou est-ce que c'est celle de la destruction de notre monde? Est-ce que ce débat sur la violence de qui a lancé une pierre ou qui aurait tapé ou pas tapé, n'est-ce pas, monsieur Dubochet, est-ce que ce débat sur la violence ne nous distrait pas des vraies questions et des vrais problèmes et des vrais coupables? Voilà.
Est-ce que quelqu'un ex veut rajouter un petit mot?
J'ai déjà témoigné sur le même sujet, mais... Il y a toutes ces histoires de violence physique qui sont assez terribles, mais il y a aussi la violence psychologique dont j'ai déjà parlé et qu'il ne faut pas oublier. Par exemple, je fais partie des personnes qui ont vu cette personne se faire embarquer par la police de manière extrêmement violente, sachant que moi j'étais en hauteur, que j'étais du coup plus sécurisée parce que mon ground support se faisait emporter de manière extrêmement violente, et que moi j'étais dans un endroit instable et que je ne savais pas comment j'allais me faire emporter. C'était aussi extrêmement dur psychologiquement de voir ça, et j'ai vraiment eu à ce moment-là très très peur, et pour elle, et pour moi, et pour les personnes tout autour. Et ça a continué encore avec les pressions policières pendant toute la garde à vue et tout du long. Et ça, psychologiquement, ça fait vraiment du dégât. Je suis encore aujourd'hui, à chaque fois que je vois un policier, ma première réaction c'est la peur, même quand je suis en train de marcher dans la rue et que je fais rien d'illégal. Et du coup, ça c'est des choses qu'il faut pas oublier non plus.
Peut-être qu'un jour la peur changera de camp. Monsieur l'avocat, maître.
Je crois pas qu'on ait besoin d'être très formel entre nous. Je crois que vous avez compris un petit peu ce qui s'est passé à l'intérieur. On a, en tout cas en ce qui me concerne, un acquittement quasi complet. Premièrement, le tribunal reconnaît la validité des oppositions, même lorsqu'elles étaient rédigées sous le format inconnu, zéro quelque chose, numéro AFIS, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, du coup, le retrait de plainte d'Holcim fait tomber, évidemment, l'accusation de violation de domicile. Le tribunal a considéré également que l'information n'était pas suffisamment claire et complète sur la décision du tribunal civil d'ordonner l'évacuation, et que notamment en ce qui concerne la mandante, elle n'avait pas connaissance des conséquences pénales, c'est-à-dire du risque d'une amende. Donc elle a été libérée aussi de cette infraction à l'article 292 du code pénal. Reste uniquement l'infraction à l'empêchement d'accomplir un acte officiel, parce que le jugement a considéré que finalement, le fait d'être monté sur le toit était une forme d'opposition qui était suffisante, même si une fois que les policiers sont arrivés avec la nacelle, elle les a suivis sans aucune résistance et immédiatement. Elle a estimé que le fait d'être monté sur le toit, c'était en soi un empêchement d'accomplir un acte officiel. Ça se discute. Maintenant, j'observe qu'on est passé de 60 jours de prison ferme à 10 jours amende avec sursis. On n'est clairement pas dans la même catégorie de sanctions. J'observe aussi que le tribunal a rejeté l'état de nécessité sur les mêmes considérations que l'on connaît déjà au tribunal fédéral par rapport aux questions qui s'étaient posées avec les affaires dans les banques. Ça me semble discutable parce qu'on a clairement une urgence spécifique ici. On n'est pas simplement dans ce que dit le tribunal fédéral, c'est-à-dire qu'une catastrophe naturelle peut toucher n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, et qu'on n'a pas donc d'atteinte possible à un bien juridiquement protégé. Là, la colline du Mormont était dans un risque quand même, à mon avis, suffisamment imminent pour pouvoir retenir l'état de nécessité le cas échéant. Mais le juge retient quand même, premièrement, que la situation de la biodiversité sur la colline du Mormont est exceptionnelle et mérite protection. Il retient quand même le but idéal de votre action. Il retient aussi le caractère pacifique de votre action. Il retient donc un mobile honorable qui permet de réduire massivement la peine. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est négatif. Au contraire, je trouve que c'est extrêmement positif, même si sur le plan du droit, on peut discuter d'un certain nombre de choses. En tout cas, c'est à mon sens une énorme claque pour le ministère public, parce qu'il était absolument... absolument catégorique sur l'irrecevabilité des oppositions, et il était à ce point catégorique qu'il n'a même pas abordé le fond. Il s'est contenté de dire l'opposition est irrecevable, point. Le reste, c'est de la littérature, ça n'existe pas. Et il a été, mais clairement désavoué là-dessus, et surtout sur l'échelle des peines. Passer de 60 jours de prison ferme à 10 jours amende avec sursis, là aussi, on a clairement un signal sur le caractère totalement disproportionné de la réponse pénale de la part du ministère public vaudois lorsque l'on parle d'activistes du climat, que ce soit pour vous ici sur la ZAD, mais que ce soit aussi dans les procès d'extinction rébellion où j'ai aussi l'occasion de plaider. Donc je crois que votre mobilisation a été importante depuis le début. La nôtre aussi en tant qu'avocat, parce qu'on estimait que votre combat était juste et qu'il fallait que nous soyons là pour vous assister et pour vous défendre, et je pense qu'il faut effectivement que vous puissiez, dans les voies pacifiques bien sûr, continuer à lutter pour la protection du climat, parce que si on a des juges qui commencent à la prendre en considération, ça veut dire qu'on a quand même fait un petit bout du chemin. Donc il faut le poursuivre. Merci.
Merci beaucoup. Et place à un peu de musique maintenant.